Chapitre 4. Il n'y avait plus de sirènes, ni même de gyrophares en action. Rien que la lumière crue des néons des quais, et celle, plus blafarde, presque jaune, des ampoules de la gare. Les camions de pompiers barraient l'accès principal, ainsi que des cordons en plastique qui avaient été noués à la va-vite, d'un lampadaire à l'autre, pour empêcher la circulation. Alexis, Seignon et Ludivine brandirent leurs cartes, et le policier en faction à l'entrée hésita un instant. Il n'était pas habitué à voir des militaires débarquer sur son territoire, et encore moins des gendarmes en civil. Section de recherche de Paris, se contenta de préciser Alexis. Votre commandant doit être au courant de notre venue. On l'a fait prévenir. Ludivine tira sur sa doudoune pour y enfoncer son menton, et ainsi se protéger du froid. Le vent d'octobre se plaqua contre le polyami de noir. L'homme les fit passer sans autre formalité alors qu'un OPJ, la trentaine, mal rasé, cheveux courts et bomber noir sur le dos s'approchait. « Vous êtes de la SR Paris ? C'est gentil de venir voir la boucherie de plus près ?»« Merci de nous accueillir, » répliqua Alexis. « Il paraît que vous avez une explication au geste de ce taré ?» dit-il en ouvrant la porte du bâtiment. « On vous a mal renseigné. En revanche, on s'intéresse à ce qu'il a tagué avant de sauter. » Il régnait une forte agitation dans la petite gare de banlieue, en même temps qu'il y flottait un mélange d'odeurs de café, de puissants désinfectants et de transpiration. Des psychologues, psychiatres et infirmiers de la cellule d'urgence médico-psychologique encadraient une dizaine d'hommes et de femmes encore en état de choc, dont un jeune homme totalement hagard, qui ne cessait de hocher la tête. Quelques pompiers partageaient un thermos fumant autour d'une table de fortune. Des policiers se mêlaient à un groupe de journalistes locaux, appareils photo suspendus sur la poitrine, en guise de carte de presse, avec plusieurs représentants politiques de la municipalité ainsi que de la région. L'OPJ fendit l'assemblée et fit sortir les trois militaires avant de lever l'index sur le mur entre la porte et une fenêtre des bureaux de la gare. Étoile E. Pas plus grand qu'un poster de magazine. Peint à la bombe rouge. À hauteur d'homme. Telle une signature sibylline. Des témoins l'ont entendu dire quelque chose ? Demanda Ludivine. Non. Les pompiers ont tout de suite pris en charge les plus traumatisés, et les collègues ont essayé de recueillir un maximum de témoignages, mais pour l'instant, il en ressort seulement que c'est un ado, et qu'il était particulièrement agité.
Vous avez son identité ?
S'informa Seignon.
Pas encore, ça va prendre du temps.
L'OPJ se tourna vers les voies et fixa un halo blanc qui brillait plus loin, comme un soleil de midi. Des projecteurs portatifs montés sur de hauts pieds dépassaient des quais, disposés en contrebas sur le ballast. Il soulignait les ombres des pompiers en train de s'affairer, pliés en deux, au-dessus des rails. Certains arboraient un teint proche du vert, d'autres titubaient un peu à l'écart. Deux autres déposèrent un gros gigot sur une couverture de survie installée sur le bord du quai. Il y avait d'autres fragments de viande dont certains étaient enveloppés dans un film sombre. Des morceaux de vêtements.
Le mec ne s'est pas raté, ajouta l'OPJ. D'habitude, avec les trains, on a des membres sectionnés, mais si on aime les puzzles, ça se complète vite. Là, il a pris le train en pleine tête. Tout a explosé. Et le reste est passé sous les roues. Il a le corps retourné. Dilacération multiple, la peau à l'intérieur et la chair à l'ex...
Ça va aller, le coupa Seignon.
Ludivine, apercevant quatre autres soleils sur notre voie, demanda. Et les autres victimes ?
La mère et son bébé identifiés par ses papiers, l'autre par une proche qui était présente. On attend encore pour la dernière.
Alexis tendit sa carte sur laquelle il avait griffonné son numéro de portable.
Je vais faire suivre une demande officielle, mais si vous pouviez me communiquer tout ce que vous trouvez, identité de chacun et une copie des procès-verbaux intéressants, ça nous ferait gagner du temps.
L'OPJ acquiesça.
Vous êtes sur quoi au juste ? C'est quoi ce dessin ? Une cellule d'anard ?
On l'ignore, mais il a été retrouvé sur plusieurs Maccabées. Cette fois, l'OPJ écarquilla les yeux.
Carrément ? Alors, notre ado, là, il serait déjà passé à l'acte avant ?
C'est possible, confirma Alexis, qui se voulait assez cordial pour que le flic lui fasse suivre tout ce qu'il aurait, mais sans en dire ou en faire trop non plus.
Seignon leva l'index vers une caméra de sécurité.
Vous avez récupéré les bandes ?
Oui, On visionnera tout ça ce soir devant une pizza chaude. Mais si ça vous intéresse, on a déjà une vidéo de toute la scène.
Les trois gendarmes le transpercèrent du regard.
Ok, apparemment ça vous branche. Suivez-moi.
Il les entraîna à l'arrière de la gare, dans un bureau qui sentait le renfermé, et où s'entassaient une demi-douzaine de personnes dont la plupart étaient au téléphone. L'OPJ se fit confier un iPhone et le tendit vers les militaires.
Un garçon de 19 piges a trouvé l'ado bizarre et il s'est mis à le filmer quand il a tagué devant tout le monde.
Le petit écran se mit à bouger. Une silhouette habillée d'un treillis et d'un sweatshirt noir s'y découpa. La capuche relevée sur la tête et sur une casquette dont seule la visière dépassait. L'individu était de dos, en train de peindre son mystérieux dessin sous le regard médusé des usagers qui n'osaient rien dire. À peine terminé son œuvre, l'adolescent lâcha sa bombe pour s'engouffrer dans l'escalier souterrain le plus proche. La vidéo s'arrêta. Déçu, Alexis ouvrit la bouche pour remercier le flic, mais ce dernier fit défiler une seconde vidéo d'une pression du doigt sur l'écran.
Le témoin a vu le tagueur apparaître sur le quai d'en face, alors il l'a filmé à nouveau. C'est la meilleure partie.
Une double voie séparait le caméraman de l'adolescent à capuche. Le quai opposé était bondé. Le tagueur regardait fixement vers l'horizon, dans l'attente du train. Sa jambe gauche s'agitait, battant la mesure de sa nervosité. Son visage était en grande partie dissimulé par sa capuche. Toutefois, les gendarmes pouvaient distinguer son menton et sa bouche. Le garçon se mordait la lèvre. Une petite horloge noire aux chiffres jaunes affichait 17h12. Les gens autour de lui ne semblaient pas le remarquer. Plongés dans leurs pensées, leurs regards rivés sur l'écran de leur téléphone portable, aux pages de leurs livres ou magazines, ou en pleine conversation avec un voisin. Tous cherchaient à tuer l'ennui au mieux, sans prêter la moindre attention à celui qui allait faire basculer leur existence d'un instant à l'autre. Pourtant, l'adolescent ne tenait pas en place. Il avançait et reculait sur le quai, scrutait au loin l'arrivée du train et observait les silhouettes autour de lui. Le bec de sa casquette pointait tour à tour vers les uns et les autres, comme un doigt funeste cherchant sur qui abattre la mort.
« À quelle heure ça s'est produit ?»
s'enquit Alexis.
« La collision ?» « Le train de 17h14. »
Soudain, le garçon se mit en mouvement. Il marchait lentement, détaillant la foule. La caméra le suivit en pivotant légèrement. L'image était floue par moments, mais relativement stable, l'autofocus opérait rapidement. Le tagueur s'arrêta dans le dos d'une vieille femme qui se tenait à un poteau d'acier. Après avoir examiné les gens autour d'elle, il reprit son chemin.
« On dirait qu'il cherche quelqu'un en particulier. »
commenta Ludivine d'une voix froide. Brusquement, il s'immobilisa. Il hésita derrière deux enfants d'une dizaine d'années qui discutaient insouciants. L'adolescent tourna la tête à droite et à gauche. Une petite bulle s'était formée autour des deux bavards. Ils étaient un peu isolés. «
Des proies idéales !» se surprit à penser Alexis. « Un peu à l'écart de la foule, facile à pousser. »
La petite horloge indiquait à présent 17h13 dans le fond de l'image. Le tagueur se frotta le visage avant de reprendre sa marche étrange. Il passa lentement derrière une femme qui berçait sa poussette d'un geste machinal, juste à côté d'un garçon d'une trentaine d'années, type gravure de mode, avec un énorme casque stéréo pour écouter sa musique, loin du monde. À ce moment-là, l'adolescent faillit tomber à la renverse, tandis qu'un homme en costume cravate l'écartait sans ménagement pour venir se placer au bord du quai. Le tagueur se redressa, et sa visière pivota tout doucement vers la nuque de l'homme. Un quadragénaire visiblement très pressé. La capuche se tourna d'abord à droite, puis à gauche, et revint se positionner dans le dos de l'homme. 17h14. Alexis crut percevoir un frisson général traverser l'assemblée, pendant qu'au loin montait le son d'un train à l'approche. Le tagueur se rapprocha jusqu'à n'être plus qu'à quelques centimètres de l'homme en costume. Le bruit des machines et du crissement des roues d'acier sur le rail s'amplifiait, saturant le haut-parleur du téléphone. Brusquement, l'homme fit un bond. Projeté en avant, ses bras s'ouvrirent comme pour chercher à voler, et son visage se transforma en un masque de stupeur et de terreur. Aussitôt, l'adolescent saisit la femme à côté et la poussa à son tour sur les voies. Elle bascula dans le vide en un instant, entraînant la poussette d'où tombèrent une forme blanche et des couvertures sur le ballast au milieu des premiers cris. La gravure de mode venait à peine de s'apercevoir qu'il se passait quelque chose dans le monde au-delà de son casque et de sa musique, que le tagueur l'attrapait par les épaules et le déséquilibrait. Au même moment, la mère du bébé se relevait en hurlant. Elle n'eut pas le temps de courir vers son nourrisson qu'une forme énorme jaillissait par la droite de l'écran. La bouche de l'homme en costume s'ouvrit quand la locomotive le percuta. Elle le happa d'un coup. Puis la femme fut heurtée si fort qu'il sembla à Alexis qu'elle se disloquait instantanément. Quant au mélomane, il n'avait pas encore touché le sol que le train lui explosait tous les os du corps et le renvoyait vers le bord du quai comme une balle rebondissante. L'instant d'après, le train envahissait presque tout l'écran et son vacarme étouffait une partie des hurlements de la foule. La caméra tomba, fixant le sol et le bout d'une basket blanche usée. Tout avait basculé en moins de 2 secondes. Le tagueur avait agi avec précision et détermination. Pas la moindre hésitation, avant même que quiconque ait pu intervenir pour l'arrêter. L'OPJ posa la main sur l'écran pour reprendre le téléphone. Ça dure plusieurs minutes avant que le gosse pense à éteindre, mais il n'y a plus rien d'intéressant. Alexis regarda Ludivine et Seignon. Ce dernier haussa les sourcils en faisant la moue. C'est glauque, lâcha-t-il. Le flic opina en ajoutant. D'après les témoins, l'adolescent a ensuite tourné les talons pour se jeter sous le train qui arrivait en sens opposé, de l'autre côté du quai. Personne n'a rien pu faire. Les témoins l'ont vu arriver à la gare, à pied, en voiture ? Demanda Alexis. Pas que je sache. On aura tous les procès-verbaux d'ici demain, je pense. Ensuite, le temps qu'on ait plus ça... Vous en avez pour longtemps ? Insista Ludivine avec un semblant de sourire, pour ne pas paraître trop sarcastique. Vu l'horreur des faits, les médias seront sur notre dos, donc le préfet aussi. Alors non, on va faire vite, ne vous inquiétez pas. Vous nous ferez un rapport concernant les bandes vidéo saisies à la gare si c'est pas trop vous demander, intervint Seignon. L'OPJ acquiesça. L'agacement commençait à poindre sur son visage. Le plus important pour nous maintenant, ça va être l'identité du tagueur, conclut Alexis. Le flic agita la carte de visite. J'ai votre numéro et le mail. Je vous fais suivre ça dès que j'ai l'info. Vous pouvez m'en dire plus sur ces macabées avec le même dessin ? Nous n'avons pas grand-chose pour l'instant, mentit Alexis. Si ça peut vous aider, je vous ferai un topo quand nous en saurons plus. Merci de nous avoir accueillis. On attend de vos nouvelles demain, bon courage. Alexis lui donna une tape amicale sur l'épaule et entraîna les siens vers l'extérieur. Tu en penses quoi ? L'interrogea Ludivine.
L'ado est dingue, répondit aussitôt Seignon. 10 euros qu'il a un dossier en HP quelque part.
Ludivine fixait Alexis qui ne répondait pas. « À quoi tu penses ?» insista-t-elle.
« Je le sens pas. Tout ce truc, je le sens pas. Vous avez vu comme il a pris soin de choisir ses victimes ? Il a d'abord songé à la vieille, puis aux 2 gamins, et c'est la femme avec sa poussette qui l'a finalement attiré. »
Les 3 gendarmes franchirent un cordon en plastique et marchèrent sur la place en direction de leur véhicule.
« Le type qui l'a bousculé surtout, » fit remarquer Seignon.
« Je suis pas sûr. » Celui-là, il l'a poussé pour le faire payer. Mais je crois que c'est la femme avec la poussette qui lui a plu.
Il a un problème avec les femmes et les gamins, peut-être.
Alexis secoua la tête en grimaçant.
Je ne pense pas que ce soit ça. Regardez ce qu'il fait avant de les tuer. Il tague un mur devant tout le monde, comme s'il voulait adresser un message au monde entier. Quand on détaille ses victimes, il y a un côté un peu famille idéale. Il s'attaque aux fondamentaux, une femme et son bébé, l'homme d'affaires et le beau gosse. Papa qui réussit, maman et les enfants parfaits.
Tu crois qu'il voulait frapper là où ça fait le plus mal ?
Ludivine hocha vivement la tête. Alex a pas tort. Il a pris du temps pour choisir ses victimes. Il ne voulait pas n'importe qui. Il s'en est pris à ceux qui blessent le plus la société.
On cherche du côté des mouvements radicaux, proposa Seignon. Extrême gauche et extrême droite, anarchiste. Je fais une demande demain auprès de la DCRI pour avoir des infos sur ces groupuscules. C'est vrai qu'on leur a pas demandé s'ils ont quelque chose sur le symbole.
On va faire ça.
T'as l'air contrarié, souligna Ludivine. C'est la vidéo qui t'a retourné ? Alexis ouvrit la portière de la Peugeot 206 et demeura en suspens.
C'est l'accumulation. D'abord 2 mecs qui découpent à travers le pays, puis des photos pédophiles et maintenant ça. Le colonel veut garder l'affaire confidentielle pour ne pas avoir d'emmerde avec les politiques et les médias. Moi je veux bien, mais c'est en train de nous dépasser. Il faut que toutes les gendarmeries soient sur le coup. Il nous faut des experts, des moyens, du personnel en plus. C'est gros, c'est énorme ce qui se passe. Et au rythme où ça va, je vous dis qu'on n'a pas fini d'en découvrir.
Seignon était de l'autre côté du véhicule.
Tu veux qu'on mette la pression sur le colonel ?
Alexis hésita, puis il désigna d'un coup de menton la gare. On va déjà mettre la pression pour récupérer tout ce qu'on peut de cet ado. Son ordinateur, son portable, tout.
Les flics vont pas être d'accord.
C'est le problème du colonel. On va le laisser gérer avec le juge d'instruction. L'ado est notre priorité. Il a forcément appris à dessiner son petit motif quelque part ou avec quelqu'un. Je veux qu'on trouve ce que ça signifie. On cherchait une porte d'entrée dans l'univers de ces dingues, on vient de la trouver. Alexis jeta un dernier coup d'œil au parvis éclairé par les lampadaires aux ampoules jaunâtres. Au loin, plusieurs boules de lumière blanche brillaient par-dessus le toit de la gare. Le jeune gendarme imagina alors comme l'éclat des projecteurs devait souligner la couleur du sang, presque luisant. Au cours de sa courte carrière, Alexis avait déjà vu bien des horreurs, des folies parfois, mais la gratuité de celle-ci le dépassait. Il revoyait le visage de cette mère qui comprend que c'est trop tard, pour elle et pour son enfant. Son cri désespéré. La vidéo n'avait pu enregistrer le choc de la motrice sur la chair, mais Alexis l'imaginait sans peine. Brutal. Il devait y en avoir de la haine chez ce garçon pour vouloir faire si mal au monde. Une haine totale, absolue. Celle de la mort. Et pas seulement la sienne. Une haine tranchante, définitive. Un culte fanatique de la destruction. De la douleur. Pour que le monde souffre avec lui. Alexis prit une profonde inspiration en s'engouffrant derrière le volant. Ce n'était pas de la folie à bien y réfléchir. Le garçon avait calculé son coup pour choquer, heurter la société. C'était une vengeance. Alexis claqua la porte.